Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir retenu ce nouveau numéro de Wagon Livre. Wagon Livre, votre émission littéraire, c'est ce soir le 182e numéro d'une émission qui a vu le jour sur Radion en novembre 2010. Merci donc d'être fidèle à ce rendez-vous culturel et littéraire. Ce soir, nous vous proposons un compte-rendu de la 7e édition de Saulieu au cœur des livres, qui s'est tenu à Saulieu, bien évidemment, les 25 et 26 octobre dernier. Un beau salon, généreux, chaleureux, qui rassemblait de nombreux auteurs, éditeurs, bouquinistes et associations savantes. L'invité d'honneur était cette année Daniel Thierry. Daniel Thierry, qui a été en 1991 la première femme en France à obtenir le grade de commissaire divisionnaire de la police nationale. Elle est depuis devenue auteure de polar, un auteur renommé et apprécié, au point d'ailleurs qu'elle a reçu en 2013 le prix Quai des Orfèvres pour un de ses polars intitulé « Des clous dans le cœur ». Au programme donc ce soir, l'actualité éditoriale des éditions de l'Armançon avec trois rencontres avec Bernadette Courtois, Gérard Calmette et Ignacio Catalan. Côté jeunesse, nous avons rencontré Dominique, auteur professionnel qui habite dans la région lyonnaise et qui nous présentera « Amandine pleura trois larmes ». C'est un livre pour la jeunesse, un petit format, et c'est surtout le premier volet d'un triptyque qui a pour titre « Du noir jaillit la lumière ». Alain Robert, lui, est venu défendre l'almanach du Bourguignon. Il reviendra notamment sur Abel Moreau, un auteur iconé qui a écrit de nombreux livrets sur les églises de Lyon. Enfin, nous avons rencontré trois auteurs de l'association Mose et Plume, établie à Longwy, en Côte d'Or. Trois auteurs qui nous présenteront leurs ouvrages, Daniel Rousseau, Alain Mignot et Alain Hartelaube. Sans plus tarder, commençons, si vous le voulez bien, avec l'invité d'honneur de cette 7e édition de Saulieu au cœur des livres. Je veux parler de Daniel Thierry, qui va évoquer pour nous son dernier ouvrage, Échange, sorti fin mars dernier. C'est la suite chronologique du Jour de gloire, et l'on retrouve le personnage d'Edwige Marion. Daniel Thierry, à notre micro. On retrouve donc Edwige Marion.
Oui, on retrouve Edwige Marion. Donc Edwige Marion a été gravement blessée dans Crime de Seine. Donc, c'est l'avant-dernier, avant le jour de gloire, Crime de Seine. Là, elle est dans une mauvaise passe, puisqu'elle prend une balle dans la tête. On peut le dire, puisque c'est tout au début du livre. Évidemment, elle est en très mauvais état. Elle est emmenée à l'hôpital. Ça se passe pendant une crue de la Seine, une inondation de Paris, crue centennale. Donc, c'est le bazar. L'hôpital où elle est évacué, où elle a été conduite est évacué, et pendant cette évacuation, on la perd. Voilà. Donc on passe tout le livre à lutter contre la montée des eaux, qui n'est déjà pas simple, à lutter contre des comportements totalement
imprévisibles de l'héroïne, en fait.
Mais pas d'elle, puisqu'elle n'est pas là, on ne sait pas où elle est, mais des gens surtout qui profitent de la situation, parce que chaque crise, malheureusement, même punition, même motif, on se retrouve toujours avec des gens qui vont, des pillards, des gens qui vont essayer de faire passer des morts sur le compte de la crue ou de ses inconvénients. Et donc, Marion qui disparaît. Donc on la cherche, évidemment, on finit par la retrouver. Sauf qu'une blessure à la tête, comme celle qu'elle a reçue, ça n'est pas anodin. Et dans le jour de gloire, elle essaie de se sortir de cette situation. Ça finit quand même par aller mieux, un petit peu mieux. Et donc, dans l'échange, elle reprend du service. Voilà, on l'autorise à reprendre le travail, mais évidemment dans des conditions aménagées, comme on dirait, parce qu'elle n'a quand même pas encore récupéré toutes ses facultés. Elle a des pertes de mémoire, elle a des espèces de flash, d'hallucinations.
Oui.
Et puis surtout, la balle qui lui a traversé le cerveau, enfin l'avant de la boîte crânienne, a provoqué des dommages importants. et sur ces, notamment sur toute la partie inhibition. Voilà, on a tous des inhibitions et tout ça c'est gouverné par une partie du cerveau qui est à l'avant, la zone émotionnelle. Et donc elle souffre de désinhibition qui l'amène à faire des choses qu'elle n'aurait pas fait d'habitude. Voilà.
Daniel Thierry, quand vous n'écrivez pas, alors à quoi occupez-vous votre retraite ?
À rien.
Ah bon ? Du sport ?
Du sport,
du tir.
Maintenant, non, pas du tout. Non, je ne fais plus du tout. Je fais plus du tout ça. Du sport, bah oui, mais avec modération, hein, parce que mon âge m'oblige à être prudente. Je ne peux plus faire tout ce que je faisais autrefois, hein. Des grandes courses à pied, du marathon, du karaté.
Vous comprenez pourquoi je me méfie de vous ?
Bah oui, mais vous avez raison, d'ailleurs. Non, donc un peu d'activité physique, mais j'ai surtout des enfants, des petits-enfants, des maisons, une maison dont il faut s'occuper.
Pas de pied-à-terre en Bourgogne, alors ?
Non, pas de pied-à-terre en Bourgogne. J'avais cherché à un moment donné dans la région natale. Et puis, je n'ai pas trouvé. Les choses ne sont pas passées comme j'aurais voulu. Et donc, donc ça ne sera plus la Bourgogne. A priori, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est plutôt le sud-ouest de la France. Voilà.
Et peut-on savoir quels sont les auteurs de polar que vous lisez ? Vous lisez, j'imagine, un petit peu la production, et Dieu sait si elle est pléthorique quand même au niveau des polars.
Oui.
De tous horizons et de tous pays. Hein.
Oui. Bah, je lis beaucoup de... Je lis beaucoup d'auteurs, je lis beaucoup également, voilà, donc ça fait partie aussi de mes occupations, parce qu'il m'arrive également de faire partie de jury pour des prix, de faire, comme là cette année j'étais dans le jury du prix de la nouvelle de Saulieu, donc j'ai lu, une soixantaine de nouvelles, je crois, de mémoire, et puis... Et puis je lis aussi pour des chroniques, pour des magazines, pour des petites feuilles ou des blogs, ou des choses qu'on me demande, comme ça, ici et là. Voilà, donc je lis beaucoup d'auteurs. Alors, je ne vais pas vous citer mes préférés, parce que mes préférés, ce n'est pas toujours ceux que je lis, parce que j'ai aussi des obligations dans ce domaine. Il y a beaucoup de gens que j'aime bien et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont apparus sur le terrain, sur le marché de la littérature policière donc en particulier, qui je pense ça mérite d'être redit encore, mais a vraiment gagné sa place dans la littérature en général après avoir été longtemps
dénigré, une paralittérature,
oui,
une sous-littérature dans le pire des cas,
voilà, maltraitée, méprisé, mais bon, aujourd'hui je pense que c'est bon, on a compris qu'on avait aussi parmi les auteurs de polar, on avait des vrais auteurs, des vraies plumes, et il n'y a qu'à avoir le Goncourt de cette année qui est Pierre Lemaître et qui est venu du polar, hein, qui a écrit quelques...
Enfin, qui n'a pas eu le Goncourt pour un polar.
Ah non, qui n'a pas eu le Goncourt, oui, pour un polar, mais parce qu'on n'en est pas encore là, peut-être que ça viendra, on ne sait pas. Hein.
J'ai dit, il y a pas mal de prix pour récompenser les auteurs de polar.
Oui, mais enfin, il y a aussi beaucoup de prix pour récompenser les auteurs de non-polar. Et je vois pourquoi un auteur de polar ne pourrait pas avoir un de ces grands prix, voire un Nobel de littérature. Puisque là aussi, tout est possible. Je pense que c'est pas du tout une fantaisie, hein, de dire ça. Je pense que ça peut très très bien arriver.
À l'instant, Daniel Thierry à notre micro. Elle était, je le rappelle, l'invitée d'honneur de la 7e édition de Saulieu au cœur des livres, le 25 octobre dernier. Je rappelle aussi le titre de son dernier roman. Il s'agit de Échange, un polar disponible aux éditions Versilio. Information extrêmement importante, puisque cette semaine, Lyon va avoir la visite du prix Goncourt 2014, Lydie Salver. Alors, Lydie Salver a reçu le prix Goncourt cette année pour son roman intitulé Pas pleurer, aux éditions du Seuil. Alors, à l'invitation de la librairie L'Autre Monde, Lydie Salver sera à la salle de la mairie d'Avallon ce vendredi 14 novembre à partir de 18h30 pour une rencontre-discussion ouverte à tous, puisque bien sûr cette rencontre est publique. Cette rencontre sera animée par la libraire de la librairie L'Autre Monde, Evelyne Levallois, et par moi-même. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'enregistrer cet entretien et de vous le proposer en diffusion sur Radion. Si vous ne pouvez pas venir à la rencontre à Avallon avec Lydie Salvert, vous pourrez bénéficier d'une séance de rattrapage, puisque Lydie Salvert sera le lendemain, samedi 15 novembre, à Auxerre, à l'invitation de la librairie Oblique. Vous pourrez vous faire dédicacer le roman de Lydie Salvert à partir de 15h à la librairie Oblique 68 rue Joubert à Auxerre. Et puis le libraire Grégoire Courtois mènera une discussion, là encore en public, au Silex avec Lydie Salvert. Et c'est à 19h30. Qu'on se le dise, je crois que c'est une information vraiment formidable pour tous les amoureux de littérature. La littérature, on l'aime à bord de Wagon Livre, on aime aussi la chanson tout de suite. Petit intermède avec Zao, tournez la page et on vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion.
J'ai vu sur ma route plein de paysages, avec des mots je peins des images. Sorti de ma cage, d'un étage, aujourd'hui je plane dans les nuages. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. Quand le présent m'échappe et que le passé me traque, je soupire pour dire dommage. Je m'arrête un moment juste pour une chanson, je rattrape le temps en volage. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. Mes joies et mes peines. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. J'entends cette vague qui m'appelle pour pardonner. Solitaire au large, dans un océan de rage, sous le beau temps ou l'orage, je dépose mon ancre et je nage. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. C'est pas si facile de tourner la page. À ceux qui m'écoutent et qui de même sont otages, j'écris pour vous dire courage. À ceux qui m'écoutent, même lorsque je doute, je chante merci, je vous aime quand je suis lâche. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. Mes joies et mes peines. Et je laisse la vie m'emporter, je laisse ma plume me porter. Je peins des images. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots, je peins visage. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots, je rends hommage.
Tourner la page, c'est un titre de circonstance dans une émission littéraire, toujours à l'écoute de Wagon Livre sur votre radio locale pour le compte-rendu du Salon du Livre de Saulieu qui s'est tenu fin octobre dernier. Alors tout de suite, je vous propose de découvrir l'actualité récente des éditions de l'Armançon. Vous allez successivement entendre Gérard Calmette et Ignacio Catalan. Mais tout de suite, voici Bernadette Courtois, institutrice à la retraite installée dans Lyon, à Massangis, dans la vallée du Serein, et elle vient de faire part être L'Héritage, un roman aux éditions de l'Armançon.
Tout simplement, j'ai choisi l'événement de la présence de Soutine, un peintre donc maintenant de renommée mondiale, qui a séjourné quelques mois dans un petit village à côté de Massangis, Civry-sur-Serein, et qui a séjourné donc pendant l'année 1939, pendant quelques mois, et qui... pour payer, disons, ses petits achats auprès des fermiers, distribuait ses tableaux, qui à l'époque, bien sûr, ne représentaient rien pour les villageois. Donc, à la suite de cet événement, j'ai profité aussi de souvenirs de jeunesse, des fins des années 50, et j'ai imaginé qu'une jeune fille faisait un héritage, donc l'héritage d'un tableau. Et derrière ce tableau, il se cache bien des choses.
On n'en dira pas plus, en tout cas c'est une invitation à découvrir votre roman. La quatrième de couverture souligne simplement que vous nous faites partager la vie de la campagne bourguignonne à la fin des années 50 et que vous avez un sens aigu des rebondissements. À découvrir donc, c'est L'Héritage, le dernier roman de Bernadette Courtois. Ignacio Catalan, cher Ignacio, je suis très heureux de vous retrouver à Saulieu. On a eu l'occasion de s'entretenir sur deux de vos romans.
Seulement sur deux ?
Seulement sur deux, je crois.
Ah, oui, parce que c'est celui dont vous allez parler, c'est le dixième quand même.
Alors justement, donc, le dixième, « Elle aimait les chats et moi ». Un titre qui surprend, « Elle aimait les chats et moi ». Chat prioritaire sur moi.
Je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant, parce qu'on peut aimer des chats et on peut m'aimer en même temps que les chats.
Alors vous avez laissé un peu de côté l'univers médiéval que vous avez tant exploré dans vos romans.
C'est sûr que je n'ai pas un âge qui me fait remonter au Moyen-Âge, mais enfin, effectivement, c'est un livre, disons, un peu autobiographique quelque part, ce qui ne veut pas dire que le narrateur est forcément l'auteur.
Voilà. Alors, de quoi s'agit-il ? Que pouvez-vous nous dire pour présenter « Elle aimait les chats et moi » ?
Eh bien, disons que j'ai un peu de mal à en parler, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre en partie autobiographique. Mais c'est l'histoire, disons, ou quelques pages de l'histoire d'un couple qui se sépare après 50 ans de vie commune, qui est séparé plutôt par la mort après 50 ans de vie commune, et un couple un peu atypique, et qui, malgré toutes les annonces qui disaient que c'est un couple comme celui-là ne pouvait pas tenir plus de 3 mois, ben il a tenu plus de 50 ans. Et la séparation, qu'est-ce que devient la séparation de ces gens-là ? Pour celui qui reste à ce moment-là, c'est ce que j'essaye d'expliquer.
Un récit pudique et touchant, nous dit la quatrième de couverture. Vous confirmez ?
Pudique, j'espère. Touchant, je suis mal placé pour répondre. J'espère quand même aussi pour les lecteurs.
Elle aimait les chats et moi, donc c'est le dernier roman d'Ignacio Catalan, tantôt parisien, tantôt le retour aux racines bourguignonnes et surtout à Arnay-le-Duc, à côté d'Arnay-le-Duc.
Oui, Arnay-le-Duc, bien sûr, c'est mes racines, donc je m'y accroche tant que je peux.
Dixième roman, Ignacio Catalan, l'écriture vous occupe, vous dévore comme ça tous les jours ?
Un peu moins depuis quelques temps, mais jusqu'ici assez régulièrement, oui, puisqu'il y a à peu près un livre par an.
Elle aimait les chats et moi, je l'ai suffisamment répété, c'est le dernier roman d'Ignacio Catalan aux éditions de l'Armançon. Et alors, un Gérard, sinon rien, c'est Gérard Calmette. Bonjour,
bonjour
Gérard,
bonjour,
Calmette.
Bonjour.
Alors vous aussi Gérard, vous êtes un habitué du micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Alors, oui, on a travaillé plusieurs fois ensemble.
Absolument. Mais si vous voulez, moi je suis bourguignon d'adoption, je suis parigot défroqué en fait.
C'est vrai.
Donc, je suis venu ici pour terminer mon existence. Mais enfin, j'espère qu'il me reste encore quelques mois.
Alors, vous habitez dans Lyon, hein, il faut que je le dise. J'habite vous habitez à Accolé.
Oui. Et puis, le plus beau village français, je vous signale.
C'est nouveau, mais ça, c'est vous qui l'avez décrit.
Non, enfin, c'est reconnu, je crois. Mais bon,
très bien, admettons. Alors, on vous avait effectivement donné la parole pour Gio Nomadi, c'était en 2012.
Des confidences, oui.
Kader Aziz Aubry de Vézelay à Béjala.
Oui.
Et puis, là, on revient peut-être avec votre dernier roman qui a pour titre L'ermite de Port-Royal. On revient peut-être un petit peu à l'histoire familiale. Petit morceau de l'histoire familiale.
Un petit morceau, oui. Dans le Port-Royal, il s'agit du boulevard de Port-Royal à Paris, hein. Il ne s'agit pas de l'abbaye célèbre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui. Donc il s'agit d'un personnage qui habitait donc de ce Port-Royal-là et qui vivait comme un ermite à son sixième étage et qui ne rencontrait pas les gens, qui semblait vraiment intéressé uniquement par son habileté manuelle, il aimait faire de la petite mécanique, etc. C'était un tourneur-ajusteur. Donc, qui finalement a passé son existence à étudier l'histoire dans son ermitage, en quelque sorte, au sixième étage de son immeuble, et qui a passé son temps à la fois à bricoler tout un tas de choses, à réparer des télévisions que des amis lui amenaient, etc. Il était capable de tout faire manuellement et en même temps était un passionné d'histoire. Donc, c'était un homme qui venait d'en bas et qui a su s'élever à un certain niveau de connaissance par un travail personnel, voyez-vous. Donc j'ai trouvé ce personnage intéressant. Et puis enfin, surtout, il vivait dans un quartier de Mouffetard, de Port-Royal, etc., à la fin de la guerre, ce qui permet d'avoir une vue de la manière dont on pouvait vivre à l'époque. Et ça m'a paru intéressant. Donc pour les gens d'aujourd'hui, voir quelles étaient les manières de se comporter à cette époque-là, voilà. C'est en même temps, on balaye un petit peu l'histoire du Paris de l'époque.
Est-ce que vous connaissez le quasi-ermite d'Accolé ?
Le quasi-ermite, celui-là, je le connais personnellement beaucoup, évidemment. Vous aussi, je crois.
Gérard Calmette, on vous voit peu sur les salons du livre. Comment se fait-ce ?
On me voit peu, mais écoutez, je suis présent.
Alors, aujourd'hui ?
Il y a deux ans, je crois. C'était il y a deux ans, oui.
Alors, on vous a vu à Livre-en-Vigne une journée.
On me voit un peu partout. D'ailleurs, je dois vous signaler que c'est quand même mon 17e ouvrage. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente comme effort quotidien. C'est énorme.
Et l'écriture vous occupe chaque jour, Gérard Calmette.
Oui, elle m'occupe, oui, bien sûr. C'est-à-dire que le matin, je fais mon jardin, car comme je l'ai dit, je suis un Parisien défroqué, donc je cultive mon potager pour me nourrir, mais pour d'autres revenus que ce potager-là. Et l'après-midi, je monte dans mon grenier, j'écris, évidemment. C'est une manière agréable de passer son temps, je crois. Et sa retraite aussi, puisque je suis retraité, bien entendu.
Vous êtes un homme heureux.
Je suis un homme heureux, absolument.
Un homme heureux, Gérard Calmette. C'est lui que vous venez d'entendre à l'instant à notre micro, auteur aux éditions de l'Armançon de L'Ermite de Port-Royal. Nouvel intermède en chanson dans ce 182e numéro de Wagon Livre. Voici Kyo, l'équilibre. Et l'équilibre, c'est important, vous écoutez Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
S'emboîte, puis transpirant, se décolle d'odo comme une longue caresse qui lentement se dérobe. Le millième nous suffoque, besoin d'air et besoin d'espace. Nos pieds persistent puisqu'ils se touchent, puis l'on s'évite puisqu'on se lasse. On rêve d'un goût inconnu dans la bouche, la nostalgie ne fait plus effet. C'est une pilule qui nous étouffe. Puis il y a cette femme qui tourne autour, qui fait sa danse, qui sème le doute et qui l'arrose de ses sourires. Mon Dieu, que la sensation est douce. Jusqu'à ce que je craque, jusqu'à ce que mes valeurs s'effondrent et que je passe à l'acte. Alors calmement tout explose, il y aura l'avant et l'après. Comme une dose d'adrénaline sulfureusement injectée. Puis je rentre tous les soirs, chaque fois un peu plus tard. Avant chaque baiser, c'est la douche pour se dire bonjour et bonsoir. J'ai l'impression de devenir fou, c'est l'arythmie dans le myocarde. Est-ce que je perds pied? Est-ce que c'est bien la fin? retrouver dans le noir, les yeux gonflés par le mépris, par la tristesse et par la rage, la voix cassée par les larmes. Tu veux connaître tous les détails, où, quand, comment est-ce qu'elle a de plus que toi. Comme l'enfant désemparé, j'essaie de te prendre dans mes bras, mais la porte claque. Ma vie vient juste de voler en éclats, et le silence me tabasse. Quand je n'entends plus ta voix, j'essaie de prendre la mesure de l'étendue des dégâts, mais c'est trop tard. L'équilibre fragile, quand on navigue entre les rives, je commence, tu termines, me rajoutes, immobile. On me dit que tu vas bien, que tu as refait ta vie. Pas du tout comme moi, qui ne te fera jamais souffrir. Mais moi je ne vais pas bien, moi je n'ai pas refait ma vie. Je me retrouve juste comme un con dans une mauvaise comédie romantique, à écouter nos chansons, regarder nos vieux films, jusqu'à connaître par cœur les premières lettres qu'on s'est écrites. Mais quand l'amour est trop fort, il ne veut pas qu'on se défile. Je te retrouve devant ma porte avec tes deux petites valises, et la première moi sans boîte, plus transpirant, se décolle de l'eau comme une longue caresse qui lentement se dérobe. Les millièmes m'en suffoquent, besoin d'air et besoin d'espace, et j'ai l'impression que chaque soir c'est toi qui rentres un peu plus tard.
À l'instant sur Radion, toujours à bord de Wagon Livre. Je vous rappelle aussi que Wagon Livre dispose désormais de son propre site internet www.yannickpetit.fr, site sur lequel vous retrouverez toutes les émissions Wagon Livre produites et diffusées sur l'antenne de Radion depuis novembre 2010. N'hésitez donc pas, si vous avez l'envie, la curiosité de vous rendre sur ce site tout jeune et que l'on a plaisir à valoriser, parce que c'est le reflet de plus de 180 émissions de passion, d'émissions de partage et d'amour de la littérature. Et ce soir, eh bien, c'est aussi le partage qui nous fait vous proposer le compte-rendu de la 7e édition de Saulieu au cœur des livres, qui s'est tenu les 25 et 26 octobre dernier. Alors à Saulieu, nous avons rencontré Dominique, auteur professionnel. Il habite dans la région lyonnaise, il sillonne beaucoup la France, se rend dans de très nombreux salons, et il va présenter à notre micro une nouveauté sortie en août dernier. C'est un petit format pour le jeune public. Cet ouvrage original a pour titre « Amandine pleura trois larmes », c'est le premier volet du triptyque qui a pour titre « Du noir jaillit la lumière » et Dominique nous le présente à notre micro.
De l'origine, je ne voulais pas qu'il y ait de texte dans ce livre. C'est-à-dire qu'il fallait raconter une histoire qui raconte cet espoir, mais où l'auteur est dans l'imaginaire pour que le lecteur soit dans son imaginaire.
En fait, tu voulais laisser le pouvoir à l'image et surtout laisser la liberté à l'imagination du lecteur de, à la limite, de déceler lui-même le sens de ces images et de plaquer l'histoire qu'il désirait.
Exactement. En fait, je raconte une histoire. En fait, c'est un film muet. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il y a juste un... En fait, c'est un film. Donc, puisque le personnage va traverser le village, aller au bord de la mer et revenir. En l'idée, l'histoire est simple, mais c'est ce qu'il comporte et ce qu'il porte qui va définir le film. Et c'est un film. C'est un film illustré avec toute cette possibilité où on a un ensemble de tableaux qui racontent cette histoire. Donc, ce qui fait que le lecteur, lui, il va éventuellement lire mon histoire, mais en même temps, il va lire son histoire. Il va éventuellement, pourquoi pas, prendre chaque tableau. Et dans chaque tableau, imaginez encore une autre histoire. Donc ce qui fait que ce livre est atypique... Alors attention, je ne suis pas précurseur dans ce genre d'ouvrage. Beaucoup l'ont fait, heureusement. Et d'ailleurs, on en fait de plus en plus, puisque ça permet à l'enfant et à l'adulte... Attention, c'est un livre pour adultes lu par les enfants. Ça leur permet à chacun de créer son propre univers en se posant sur l'univers que nous avons construit avec Olivier.
Alors, ce que tu souhaites aussi avec donc ce livre, dont il faut mentionner le titre, hein, c'est « Du noir jaillit la lumière ». Je répète, « Du noir jaillit la lumière ». Ce que tu souhaites aussi, c'est que ce livre amène à une réflexion.
Oui, c'est une réflexion.
Tu veux susciter une réflexion.
Ça suscite une réflexion sur notre société. Alors, « Du noir jaillit la lumière » est le titre du triptyque, en fait. Au départ, c'était pas du tout conçu comme cela, mais il s'avérait que j'avais écrit d'autres textes qui rentraient dans ce concept. Donc, du coup, « Du noir jaillit la lumière » démarre avec ce poème d'Amandine pleura trois larmes, qui est, lui, la source de ce livre. C'est la source, c'est l'origine. Et de jaillit la lumière, jaillira la source, jaillira toutes ces possibilités, ce vieil homme aigri par la vie. Non, il n'est pas aigri par la vie. En fait, non. C'est la vie qui est aigrie. Et lui, justement, quand il voit que cette vie est aigrie, il va essayer de rechercher la lumière pour rapporter toute l'espérance et toute la joie et tout le bonheur. Donc ça, c'est le premier volet.
Donc le premier volet a pour titre « Amandine pleura trois larmes voilà. », mais on peut dire le chapeau du triptyque, c'est « Du noir, j'ai la lumière ».
Une trilogie, qu'on soit bien d'accord. Trois histoires différentes, trois volets différents. Le prochain, c'est « Le chat », qui est déjà écrit, qui est à l'illustration. Et le troisième, qui est aussi écrit, qui s'appelle « L'arbre à livre ». Chacun est dans un effet conceptuel d'une recherche philosophique sur notre société.
Le deuxième volet du triptyque, « Le chat », lui... contient une philosophie.
Oui.
Alors de quoi s'agira-t-il ? Peut-on savoir
oui,
un peu
oui,
plus
oui. Alors le chat d'abord est construit avec un texte gigogne. Donc ça, là je pense que je suis concepteur de ce phénomène d'écriture dans le sens où jusqu'à présent je n'ai jamais vu de texte écrit de la même façon que celle que j'ai créée. C'est-à-dire c'est un mot, rajouter un mot qui fait une phrase, chaque fois on rajoute un mot et chaque fois on reconstruit une nouvelle phrase. Mais il faut toujours que ça soit cohérent. Le chat regarde le monde, le chat le regarde le monde, etc. etc. Donc déjà ça, je pense que je suis précurseur dans cette écriture. Ensuite, c'est une pensée philosophique sur notre société. Parce que le chat regarde le monde, mais est-ce que le monde sait regarder le chat ? Et après, alors je ne peux pas tout dévoiler, enfin, c'est une réflexion qui est personnelle. C'est-à-dire que chacun, pareil, va pouvoir avoir, en fonction de sa sensibilité, pouvoir comprendre et analyser ce texte. Et le troisième, l'arbre à livre, alors là, je vais rester dans le consensuel. Là, on va tout de suite décrypter le livre en comprenant que semer un arbre qui va donner les livres vont donner la graine de la connaissance, etc. Là, je reste dans le consensuel.
Tes livres ne sont pas disponibles en librairie.
Si, oui et non.
Alors,
oui et non.
Nuance alors.
Oui, je nuance. Je nuance tes propos. J'ai un distributeur national, voire même international, puisque international, je suis aussi diffusé et distribué en Belgique et au Luxembourg. Je n'ai pas de diffuseur. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faudrait 2-3 heures d'émission pour arriver à faire comprendre pourquoi. Tout à chacun, quelqu'un qui m'écoute en ce moment, en me disant tiens, ça peut être intéressant d'acheter un livre à Dominique. De Dominique, on va dire, on va parler français. Bon, on va dans une librairie, le libraire, il tape, Dominique, qu'est-ce qu'il a fait, papapapa, aime l'éditeur, papapapa, hop, il peut avoir mon livre. Il n'y a pas de problème. Je suis comme tout éditeur. La seule différence, c'est que je n'ai pas de diffuseur, parce qu'il y a déjà pléthore de livres, et que malheureusement, la librairie indépendante, ou même les gros réseaux, comme Cultura, Espace Culturel Leclerc, ne peuvent pas stocker tous les livres, c'est pas possible. Vous savez combien il y a de livres qui sortent en France ? Et puis après, il y a une visibilité. Est-ce que les livres qui seront placés en librairie vont être visibles ? Est-ce que le libraire aura le temps de s'occuper de temps en temps de mon livre ?
Et de le valoriser, oui.
Alors, il va le valoriser un moment, mais combien de temps ? Très peu de temps, parce qu'il est pris dans un mouvement. Donc, c'est compliqué aujourd'hui, la librairie. Là, je pense que pour comprendre la librairie, il faut faire une émission. Et puis, je suis ce qu'on appelle un petit éditeur de région, donc je ne suis pas forcément quelqu'un qui peut être intéressant. Faut pas prendre ça péjorativement, ni vulgairement. Pas intéressant, ça veut dire que aujourd'hui, on est quand même sur une économie de marché. Donc c'est aussi une réflexion. Et un libraire, quoi qu'il en soit, il faut qu'il vive de son métier. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, le libraire indépendant est dans une complication face à l'économie. Donc, il faut aussi accepter en tant qu'éditeur et écrivain de région qu'on ne soit pas diffusé nationalement. Mais après tout, est-ce que même des fois, si vous êtes diffusé et distribué nationalement, est-ce qu'il y a un retour assez important ? Et est-ce que cette visibilité ? Non. C'est très complexe parce que le lecteur ne vous connaît pas. Est-ce qu'il va vous acheter parce qu'il ne vous connaît pas, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être d'abord un auteur derrière ses livres. C'est pour cela que je fais beaucoup de salons, beaucoup de dédicaces. On me voit un peu de partout. Je commence à avoir ma notoriété pour deux raisons. C'est que je suis derrière mes livres. Et puis, il paraîtrait, mais ça, je le dis comme ça entre nous, hein, vous en parlez à personne, il paraîtrait
personne
que mes livres...
Écoute.
Non, mais j'espère bien. D'ailleurs, je me demande pourquoi, d'ailleurs. Mais ça reste vraiment un secret entre nous. Il paraîtrait, il y a des gens qui le disent, il paraîtrait que mes livres sont bien. Mais ça, alors c'est une rumeur. C'est une rumeur. Et alors, je suis un peu embêté parce que si maintenant on le sait, le problème c'est que les paparazzi et les papas sans rien, sans appareil photo, les papas sans maman, par exemple, hein, les papas.
Et les paparazzites aussi.
Et les paparazzites.
C'est plus grave.
Ah oui, mais ils sont graves, eux. Mais moi j'ai peur que voici Water Glozer, Paris Mash. Moche, Paris brûlé, Paris brutil, tous ces gens-là viennent à mon maison et dire « Dominique !» Et que je fasse « Oui pourquoi ?»« Mais pourquoi quoi ? Pourquoi ?» Et c'est ça qui m'embête, c'est que je n'aurai pas la réponse à ce pourquoi. Oui, il paraîtrait que mes livres sont bons, pour preuve, c'est que les gens les achètent, les gens les lisent. Et, juste une anecdote, il y a même des gens qui me retrouvent et qui me disent, au fait, on va continuer à acheter vos livres parce qu'il paraît qu'ils sont bien.
Et moi, je confirme, ils sont bien, et notamment le dernier, Amandine pleure à trois larmes, le volet...
Ah, c'est pas le dernier. C'est juste celui d'avant.
Il y a encore plus frais.
Eh bien, il y a encore plus frais.
Alors, encore plus frais, mais 30 secondes.
Mais 30 secondes, 30 c'est
secondes
le loup
de prêcheur.
Mais oui, c'est loup as-tu faim.
Loup as-tu faim.
Oui, un livre pour les tout-petits encore. Parce que c'est là, moi c'est ce que je fais, moi c'est pour les enfants. Il y a les petits chatons, tout ça. Mais il y a le loup qui n'a pas faim. Un loup qui n'a pas faim, on n'a jamais vu. Eh bien si, chez moi, j'en ai marre de voir toujours dans les librairies tous ces loups dans les livres qui ont faim, qui n'arrêtent pas de manger les marmots, tout, ils mangent tout, le chaperon rouge, les cochons, tout. Moi, chez moi, mon petit loup, lui, il n'a pas faim. Et devinez qui c'est qui va lui offrir à manger, qui veut essayer de le faire manger dans son restaurant. Les trois petits
cochons.
Et qu'est-ce qu'il dit, notre loup ? Eh bien, non, je n'ai pas faim. Mot de la fin.
À l'instant, c'était Dominique à notre micro pour Amandine pleura trois larmes. Premier volet du triptyque Du noir jaillit la lumière. C'est chez M, l'éditeur. En attendant, les deux autres qui viendront donc compléter ce triptyque, les deux autres ouvrages qui auront pour titre Le chat et l'arbre à livres. On change de registre littéraire puisque nous allons mettre en avant l'almanach du Bourguignon aux éditions CPE, l'éditeur des Terroirs de France. Alain Robert, que vous allez entendre, a participé à la rédaction de nombreux articles de cet almanach avec Michel Gautreau, Lucienne Delisle et Gérard Bardon. Alors, cet almanach du Bourguignon 2015, une nouvelle fois, vous permet de savourer votre région à travers des récits, des anecdotes, des récits sur les hommes, sur l'histoire, sur les produits, les recettes, les traditions et autres légendes. Alors, Alain Robert, qui est un des auteurs de l'almanach du Bourguignon, revient dans le reportage qui va suivre sur un écrivain iconais, oublié et méconnu, Abel Moreau. Tout de suite, Alain Robert.
Alors, Abel Moreau est un auteur qui a écrit de très nombreux livrets sur les églises de Lyon. Alors, ces livrets sont maintenant un peu anciens, puisqu'ils datent des années 60, mais c'est un grand connaisseur du patrimoine de notre département, et notamment du patrimoine religieux. Alors, à côté de ça, en parallèle, évidemment, ça reste un de nos écrivains régionaux, pas forcément régionalistes, mais régionaux. Et j'ai trouvé que c'était un peu injuste aussi qu'on ne parle pas beaucoup de cet écrivain. Et j'ai essayé, dans ce petit article, de renouer un petit peu avec ce qu'il a fait, et puis de faire revenir un peu au goût du jour certaines de ses œuvres, puisque malheureusement, bon, il faut l'avouer, c'est un écrivain qui a beaucoup écrit aussi des romans, ou des publications religieuses, donc on pourrait dire que c'est un écrivain chrétien, catholique. Donc, bon, néanmoins, ça fait partie du patrimoine écrit de Lyon. Voilà. Et donc, deuxième petit sujet peut-être, oui, qu'il faudrait évoquer, le travail des Mormons en Bourgogne. Alors pourquoi ? Malheureusement, ce projet n'est pas encore concrétisé, mais un de mes prochains ouvrages sera consacré à la géoenologie en Bourgogne. Donc l'objectif principal sera de convaincre les bourguignons d'aller retrouver leur source familiale en Bourgogne ou ailleurs, parce qu'en généalogie, on peut commencer en Bourgogne et terminer à l'autre bout du monde. Mais bon, disons que c'est un guide de généalogie pour les débutants, hein, je le souligne bien, et qui est très orienté sur la Bourgogne. Ce sera encore à nouveau, j'allais dire, pour moi l'occasion de parler de l'histoire de notre région. Alors revenons aux Mormons. Donc les Mormons ont parcouru toute la France dans les années 60, fin des années 60, et ont demandé l'autorisation à l'État français de consulter l'état civil ancien en France. Alors l'État français a accepté, et ça a été une décision très judicieuse, puisque le contrat était le suivant. Ils dépouillaient, on les laissait consulter les archives de l'état civil, ils dépouillaient et ils faisaient des microfilms, mais en échange, ils donnaient un exemplaire gratuit. Et c'est comme ça que la plupart des archives départementales ont maintenant un fonds documentaire qui a été numérisé, on dirait maintenant, mais qui a été surtout microfilmé au départ par les Mormons, et qui maintenant, bon, pour ceux qui sont dans le domaine, ils vont s'y reconnaître, il y a une grande campagne de numérisation des archives au niveau départemental pour toute la France, et on leur doit toutes les archives maintenant, tout l'état civil laissé en libre consultation gratuite sur Internet, on le doit aux Mormons. S'ils n'étaient pas venus en France consulter les archives et en faire des microfilms, on aurait eu quasiment impossible d'avoir aujourd'hui sur Internet la consultation libre de l'état civil ancien, les registres paroissiaux notamment. Alors, à noter pour la petite anecdote que les Mormons ont fait ce relevé pour baptiser rétroactivement leurs ancêtres qui étaient décédés et qui donc ne pouvaient avoir reçu la révélation de leur grand gourou qui, avait reçu un message de Dieu à la fin du XIXe siècle.
Et donc c'est un des articles, parmi beaucoup d'autres, dans l'almanach du Bourguignon.
Que je signe et que Lucienne Delisle et d'autres auteurs ont signé sur... Bon, on va trouver dans l'almanach Bourguignon un petit récit sur Saint-Florentin, un saint bourguignon. On va avoir beaucoup d'autres choses.
Y parle aussi de l'homme de Courson les Carrières, le capitaine Jean Roquoignet.
Voilà, donc un petit article sur...
Il est né à Druy-les-Belles-Fontaines.
Voilà, Druy-les-Belles-Fontaines. Et donc, sur le capitaine Coignet, là aussi, un des classiques en livre ancien, un des classiques du département, pour ceux qui aiment évidemment les campagnes napoléoniennes.
Et Colette qui vous est si chère.
Alors, Colette, oui, je ne vais pas développer plus ici, ce n'est pas l'objet, mais qui est un des écrivains, une des premières émotions littéraires de mon adolescence, je le dois à Colette. Et c'est l'objet aussi d'un deuxième projet qui est moins littéraire, puisque c'est un carnet de recettes bourguignonnes au temps de Colette. Donc Colette servira, j'allais dire, de toile de fond à ce carnet de recettes. Et je tiens à remercier, même si le livre n'est pas encore sorti, Samia Borgi, donc la directrice du centre d'études Colette, qui a très gentiment et gracieusement fait la présentation de cet ouvrage. Et quand Samia Borgi prend la plume, en général, on peut s'y fier les yeux fermés. C'est un peu gênant pour lire, mais je suis vraiment très fier que Samia Borgi ait voulu participer à ce tout petit projet.
C'était Alain Robert, à notre micro, auteur parmi d'autres articles dans l'almanach du Bourguignon. Et rappelons de lui d'autres de ses ouvrages, notamment « Au bon temps des paysans en Bourgogne », signalons aussi « Le patois bourguignon » et plus récemment un recueil de contes populaires de Bourgogne. Tous ces ouvrages sont disponibles aux éditions CPE. On vous souhaite une excellente soirée, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et vous êtes à bord de Wagon Livre, tout de suite « Le bon vent » et c'est Judith qui nous l'interprète. Bonne soirée à toutes et à tous.
Le bon vent viendra chasser les mauvais tours, les printemps viendront balayer les mauvais jours. Je sais bien qu'il y a pire et qu'il y a mieux que moi, mais au-delà de nos soupirs et bien au-delà, c'est bien peu de le dire. Oui, mais moi j'y crois. Je demande à ton sourire de se tenir prêt, car le bon vent viendra chasser les mauvais tours.
poids de ta routine. Ça serait pas si mal, mais le bon vent viendra chasser.
Suite du compte-rendu de la 7e édition de Saulieu, au cœur des livres, nous avons rencontré des auteurs de l'association Mosiplume, créée en Côte d'Or et dont le siège est à Longwy. Alors, vous allez entendre d'ici quelques minutes Daniel Rousseau et Alain Mignot. Alain Mignot qui est président de l'association des éditions du Hérisson. Mais d'abord, on donne la parole au président de l'association Mosiplume. Voici Alain Hartelaube.
Donc je m'appelle Alain Hartelot, j'ai 67 ans, j'habite à Longwy, je suis un ancien enseignant et 6 fois grand-père, ce qui explique aussi que j'écris des livres contes pour les enfants.
Alors le tout dernier, disponible aux éditions Le Hérisson, a pour titre « Manoël et la Rouge, une histoire d'enfant trouvé ».
Voilà, c'est un conte, un petit garçon qui arrive à l'âge de 3 jours dans une maison au fond des bois, en plein hiver, le 25 décembre, il y a de la neige partout. Et il est trouvé par une grand-mère dans une de ses corbeilles de fleurs. Et en même temps que lui est arrivée une rose.
Alors, un conte plein d'espoir, j'espère.
C'est un conte. C'est pas « Ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants » puisque l'histoire se termine quand Manoël a 17-18 ans. Mais on imagine qu'effectivement, puisque comme dans tous les contes, il devient prince.
Alain Hartelaube, un petit mot de présentation de l'association Mots et Plumes.
Alors Mots et Plumes, c'est une association d'auteurs et d'écrivains que nous avons créée en 2008 donc avec mon complice Alain Mignot. L'objectif, c'était de regrouper des auteurs de façon à avoir une vie commune, d'avoir des liens, de faire des salons, enfin de participer à des salons extérieurs ensemble, d'organiser nos propres salons. Et on avait un objectif qui était d'écrire avec des jeunes, ce qui est devenu le roman des collèges avec des collégiens. Et cette année, nous en sommes à notre 6e édition avec 15 classes, 350 élèves. Et à la fin de l'année scolaire, on publie un livre dans lequel on met toutes leurs nouvelles et tous leurs romans. Et chaque élève reçoit un livre en souvenir.
Si un auteur souhaite rejoindre l'association, comment doit-il s'y prendre?
Alors à Mots et Plumes, on n'adhère pas, on demande à adhérer. Le conseil d'administration accepte ou refuse les demandes d'adhésion. Jusqu'à maintenant, on a accepté tout le monde. Nous avons quelques critères, c'est pas d'extrémisme religieux, pas d'extrémisme politique, pas d'apologie de la drogue, de l'alcool ou des déviances sexuelles. Enfin, quand je dis viol, hein, mais bon, sinon tout le monde est le bienvenu et puis savoir un peu écrire. Donc en principe, quand quelqu'un qu'on ne connaît pas demande à adhérer, on lui demande de nous envoyer un livre pour qu'on voit son style.
Très bien, merci Alain Hartelaube pour toutes ces explications. Je rappelle donc le titre de votre roman, le tout dernier, c'est un conte pour être plus précis, c'est Manoël et la Rouge et c'est aux éditions Le Hérisson. Je me tourne cette fois-ci vers Daniel Rousseau. Daniel Rousseau, bonjour.
Bonjour Yannick.
Daniel, est-ce que je peux vous demander de vous présenter aux auditrices et auditeurs de Radion ?
Oui, je suis né en Tunisie en 1951. J'ai donc des attaches africaines, île de Malte et bourguignonne. Et je suis maintenant à la retraite, j'étais proviseur de lycée et je vis à Bligny-sur-Ouche, près de Beaune, où je me consacre maintenant pleinement à la littérature et à l'écriture.
Alors venons-en justement à la littérature et à l'écriture, puisque j'ai entre les mains votre dernier roman qui a pour titre « Le violon de la liberté ». Est-ce que vous pouvez, Daniel Rousseau, nous présenter l'intrigue de ce roman, s'il vous plaît ?
Oui, c'est un roman qui met en scène un jeune violoniste et ses amis musiciens qui sont pianistes, guitaristes, qui font de la percussion, qui se retrouvent ensemble sans savoir que pendant les vacances de l'été 1967, le passé va surgir dans leur vie et va complètement bouleverser leur rapport entre eux. Ils vont découvrir la Deuxième Guerre mondiale, ils vont découvrir, se découvrir entre eux, découvrir l'amour et découvrir l'aventure, tout en étant musiciens et en jouant de la musique quasiment tous les jours de ce merveilleux été 1967.
Ce roman a-t-il des échos autobiographiques ?
Oui, en partie, puisque il y a deux personnages principaux, Volker et Cédric, qui sont en fait tous les deux opposés par ce qui s'est passé dans le passé avec leur père et grand-père et qui finalement vont dépasser leur querelle pour se retrouver et essayer de lutter ensemble pour un monde meilleur.
Vaste programme.
Oui, vaste programme, mais à cette époque-là, ces jeunes ont 17-18 ans et ils sont prêts à oublier les querelles du passé pour construire un avenir plus solide et plus souriant. Et dans les années 67, juste avant 68, finalement, ça se présentait bien pour eux.
Je rappelle donc le titre de votre roman, Daniel Rousseau, « Le violon de la liberté » aux éditions Jeanne de Rosereuil. Et vous êtes membre vous-même de l'association Mots et Plumes que préside Alain Hartelaube. Cette fois-ci, un autre président. Alors, il est membre de l'association Mots et Plumes, mais de son côté, il est le président de l'association des éditions du Hérisson. C'est Alain Mignot. Bonjour Alain Mignot.
Bonjour Yannick.
Alors Alain, même question. Glissez-nous, s'il vous plaît, votre carte de visite.
Oui, je suis un très jeune homme de 71 ans. Et j'ai fait toute ma carrière dans la police nationale où j'ai terminé avec le grade de commandant. Puis j'ai été pendant 7 ans juge de proximité, pendant lesquels j'ai eu le plaisir d'écrire des livres à la fois sur l'alchimie et le livre que vous tenez en main, qui est un livre que j'ai écrit en mémoire de ma grand-mère, qui était une vieille paysanne et qui à l'époque ne pouvait pas se soigner beaucoup et les médicaments coûtaient cher et qui utilisait les plantes. Quand elle nous a quittés, ces fiches, je les ai récupérées et j'y ai rajouté l'utilisation culinaire et l'utilisation cosmétique, ce qui fait que pour les 24 plantes de livre, qui sont des plantes de Bourgogne, de Franche-Comté, que l'on peut trouver dans nos jardins ou le long des chemins quand on se promène, eh bien on a pratiquement tout ce qui est pour se maintenir en bonne santé. Bon, le livre dit « soignons-nous », mais c'est plutôt, on devrait plutôt dire « gardons-nous en bonne santé avec les plantes de nos jardins et de nos champs ».
Donc le titre c'est « Soignons-nous avec les herbes et les plantes de nos jardins » et ce sont des herbes et des plantes de Bourgogne-Franche-Comté.
Absolument, absolument. Il n'y a pas de plantes exotiques, il n'y a pas de gélules, il n'y a pas d'huile essentielle. Ce ne sont que des plantes que l'on peut soi-même récolter ou soi-même cultiver et ensuite que l'on conserve ou qu'on l'utilise pour se soigner tranquillement. Comme par exemple, beaucoup de gens connaissent la tisane de thym, la tisane de persil, sans vouloir faire de publicité, bien entendu, mais ce sont des utilisations courantes que connaissent les gens de la campagne.
Notre émission touche pratiquement à sa fin. Avant de nous séparer, je voudrais donner quelques informations culturelles et des informations autour de l'actualité du livre dans l'Yonne. Effectivement, ce vendredi 14 novembre, cela se passe à Avallon, c'est à la salle de la mairie d'Avallon, dès 18h30. Vous aurez la possibilité de venir entendre Lydie Salvert, prix Goncourt 2014, qui sera à Avallon. Effectivement, vous le savez, Lydie Salvert a obtenu le Goncourt 2014 pour son roman « Pas pleurer », qui est une touchante évocation de l'été 1936, qui a vu l'Espagne basculer dans la guerre civile. Alors comme beaucoup d'autres, la mère de Lydie Salvert a été de ces Espagnols jetés sur les routes pour fuir les horreurs du franquisme. Donc, Lydie Salvert à Avallon, c'est ce vendredi 14 novembre à 18h30 à la salle de la mairie pour un débat en public
animé par la libraire de l'Autre Monde, Evelyne Levallois, que vous connaissez puisque vous l'entendez régulièrement dans notre mission. Je serai aussi à ses côtés et je crois que Radion et Wagon Livre seront très heureux de vous proposer cette causerie avec le Goncourt 2014, très prochainement donc sur nos ondes. Alors, si vous ne pouvez pas venir à Avallon, vous retrouverez Lydie Salver le samedi 15 novembre à partir de 15h à la librairie Oblique, 68 rue Joubert à Auxerre, donc pour une séance de dédicace. Et la rencontre-discussion aura lieu à Auxerre au Silex à 19h30 avec Lydie Salver. Voilà, une actualité quand même assez remarquable dans notre département. Lundi 17 novembre, c'est au cinéma d'Avallon à 18h. Jean Lacoste, qui est philosophe et germaniste et qui est à la tête de la rédaction de la Quinzaine littéraire, donnera une conférence sur Au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée, c'est ce texte de Romain Rolland publié le 24 septembre 1914 dans le journal de Genève qui est resté le plus célèbre manifeste pacifiste de la Grande Guerre. C'est le 17 novembre à 18h au cinéma d'Avallon. Et puis je signale aussi, toujours dans le cadre des commémorations du centenaire du début de la Grande Guerre, une exposition de clichés de la famille Petitpied. C'est à la bibliothèque de Villeneuve-sur-Yonne. L'exposition est visible jusqu'au 31 décembre prochain. Les horaires d'ouverture, mercredi et vendredi de 9h à midi et les mardis et samedis de 14h à 18h15. Renseignements au 03 86 87 27 88. Et puis je vous rappelle aussi que pour tout savoir de l'actualité éditoriale, de l'actualité des salons, des dédicaces, vous vous rendez sur le site internet du CRL Bourgogne, le site du Centre Régional du Livre Bourgogne. Vous aurez toutes les informations que vous désirez. Prochain rendez-vous de Wagon Livre, c'est mercredi prochain. Nous évoquerons le festival littéraire et printanier des Portes du Morvan qui se tiendra en Nièvre voisine, dans le canton de l'Orme, du 10 au 26 avril 2015, nous accueillerons l'organisateur de cette manifestation qui tournera cette année autour de la figure et de l'œuvre de Georges Brassens. Nous serons donc en compagnie d'Hervé Collin, de la Compagnie du Globe et de Madeleine André. Madeleine André qui nous interprétera a cappella des chansons de Georges Brassens. C'est mercredi prochain, 19 novembre, à 21h, toujours sur Radion. Merci de votre fidélité. Excellente soirée. Au revoir.